Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission spéciale de Tonnerre de Brecht.
Spéciale car l'émission a posé ses valises aujourd'hui à Torigny et Frouillard, à la ferme de Tizé au sein de l'association Au bout du plongeoir.
Merci donc à nos invités Maëla Jacquinet et Dominique Chrétien de nous recevoir dans ce lieu privilégié et bonjour à vous.
Bonjour.
On se retrouve dans quelques instants, juste après les actualités théâtrales.
Depuis le début de ce nouvel confinement, le Théâtre de la Ville propose très régulièrement des spectacles en direct sur Internet et c'est le cas ce soir avec La Reine de la Piste, écrit et mis en scène par Pierre Note. Un spectacle imaginé autour des chansons de l'artiste multifacette Elena Noguera. C'est en direct donc ce soir à 20h sur le site, la page Facebook du Théâtre de la Ville.
L'Opéra National de Paris propose des visites virtuelles pendant le confinement, l'occasion de découvrir ce lieu plein d'histoires à travers aussi de nombreuses archives de spectacles. L'occasion de retrouver aussi les expositions permanentes du lieu, c'est donc sur le site web de l'Opéra National de Paris.
Il a fait du théâtre en direct sur Internet son métier avec un renouvellement de la forme artistique. Robert Plagnol vous propose les mardis, mercredis et jeudis à 21h le spectacle La femme de ma vie dans sa propre mise en scène et les vendredis, samedis à 21h et le dimanche à 15h. Vous pouvez retrouver la représentation d'un texte joué, écrit et mis en scène par Luce Mouchel qui s'intitule « Un petit souffle et j'allais tomber », un spectacle tous les jours sur le site directautheatre.com.
Encore quelques minutes de patience avant de rejoindre nos invités pour une émission consacrée à l'association Au bout du plongeoir, puisqu'on s'écoute tout de suite « L'eau » de Jeanne Chéral.
Oh c'est l'eau, qui m'attire, c'est l'eau. Oh c'est l'eau, qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me surprend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait plonger. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me détend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait nager. Oh c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait sourire. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts, même la boue. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait frémir. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts sont à mon goût. Oh c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau qui saoule, l'eau de vie qui coule et qui endort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau du bouillon. Même l'eau qui saoule, l'eau de vie qui coule et l'eau qui dort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau qui rencontre. Oh c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore, l'eau de l'aisselle. Même l'eau brouillée, l'eau que j'en ai marre d'être mouillée. Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore, l'eau de vaisselle. Même l'eau qui pue, l'auquel on a marre d'être bouillue. C'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau des larmes comme un vacarme dans les yeux. Même l'eau des pleurs arrose les fleurs de mes aïeux. Et l'eau de ta bouche quand je la touche avec la mienne. C'est l'eau qui me va, celle que je bois comme un poème.
C'était Jeanne Chéral avec son morceau « L'eau ». Et voici enfin le moment tant attendu, l'interview de nos invités. Bonjour, du coup, on est avec Dominique Chrétien et Maëla Jacquinet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle est l'origine de Au bout du plongeoir ?
L'origine du nom ? vous voulez dire ?
L'origine du nom, du lieu.
L'origine de l'association ?
Oui.
En tout cas, l'association, elle, s'est créée au milieu des années 2000, créée par 9 personnes, très vite rejointe par 2 autres, et puis ensuite par beaucoup d'autres, puisque l'association aujourd'hui a plus de 200 adhérents. Mais à l'origine, l'idée très simple, et en même temps pas si facile que ça à mettre en œuvre, était d'offrir des espaces et du temps d'expérimentation et de recherche pour les artistes. Donc clairement, au bout du plongeoir, c'est une association qui œuvre en complémentarité de tous les lieux de spectacle, de création, de diffusion qui existent sur Rennes et ailleurs, partout en France, en ce sens que nous proposons des temps très, très, très en amont des créations. Donc c'est plutôt le lieu et des commencements, là où s'esquissent les projets, là où les artistes réfléchissent, lisent, discutent, commencent à écrire, commencent à composer. Voilà, donc c'est vraiment le tout début. Et c'était vraiment l'idée première et fondamentale d'Au bout du plongeoir, ce qui a influencé aussi un petit peu le titre et le nom de l'association. Parce que je ne sais pas ce que ça vous évoque, Au bout du plongeoir.
Bah si, c'est juste avant de sauter, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Oh, voilà. Ouais, okay. Ouais. Donc c'est effectivement ça, cette à la fois cette prise de risque, ce geste préliminaire, tout autant qu'un espace de liberté, parce qu'après tout, vous n'êtes pas obligé de plonger, hein. Vous pouvez faire demi-tour et redescendre par l'échelle.
Bah, je suis déjà venu à plusieurs reprises ici dans ce lieu pour assister à la présentation du travail d'Arnaud Stéphan sur ce que j'appelle l'oubli, et aussi suivre le travail d'Anna Bouy pour DDD. Je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, DDD, mais voilà.
Désaccordeur.
Je ne sais plus. Et ces deux artistes font partie de l'itinéraire d'artistes. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur cette initiative, voire plus que 2 mots d'ailleurs ?
Sur itinéraire d'artistes, là, c'est un projet, c'est une coopération qui est née en 2014 avec les Fabriques à Nantes. On avait le désir, avec nos amis nantais, de créer un espace à la fois de dialogue entre les deux structures, puisque les Fabriques à Nantes, c'est un petit peu comme Au bout du plongeoir, à ceci près que ce n'est pas un lieu, mais 3 lieux, et que c'est un outil de la ville de Nantes, directement géré par la ville de Nantes. Mais ce qu'il y a de commun, c'est notre désir d'accompagner, de soutenir des jeunes artistes, des jeunes équipes, et de leur permettre de sortir de leur ville respective, parce que ce n'est pas toujours facile quand on est un jeune créateur d'être repéré dans d'autres villes de l'Ouest et ailleurs. Et du coup, on a eu cette idée avec les Fabriques de créer cette coopération qui se traduit très concrètement chaque année par le choix ensemble de plusieurs équipes artistiques qui vont sillonner, si j'ose dire, le territoire entre Nantes et Rennes, en tout cas plus concrètement, qui vont séjourner et à Nantes et à Rennes. Ça, c'était l'idée en 2014, et on a été très vite rejoints, 3 ans plus tard, par Brest, par la Chapelle des Réseaux, donc un lieu qui est géré et animé par la compagnie des Réseaux. Mmh. Et du coup, Brest est rentré dans la danse, et depuis donc 2017, les artistes choisissent tous ensemble. Il y en a à peu près 3 par ville, on va dire ça comme ça, c'est une moyenne. Et donc les artistes sillonnent la région et passent d'une ville à l'autre. Et depuis cette année 2020, ouverture à la Normandie, et le CDN de Normandie-Rouen nous a rejoints. Donc nous sommes désormais 4 lieux, et ce sera encore le cas en 2021. Donc voilà, c'est une coopération qui grandit, qui s'étoffe, qui vraiment aide à la mobilité des artistes, qui les soutient dans la mise en œuvre de leurs projets. Je me répète un peu, mais au commencement, quand les choses s'esquissent et démarrent, en pré-production, on pourrait dire dans notre jargon d'artiste. Et du coup, voilà comment est née cette coopération itinéraire d'artistes.
Très bien.
Vous vous qualifiez de plateforme de création et on constate assez vite les rencontres artistiques et intellectuelles que vous permettez. Vous insistez aussi sur la prise en compte des habitants. Alors comment ils et elles participent aussi à vos travaux, enfin aux travaux du bout du plongeoir.
Déjà, la spécificité du lieu fait qu'on est très vite amené à rencontrer les voisins, les gens du coin. C'est pas toujours très lisible au premier abord ce que fait Au bout du plongeoir pour les personnes qui se baladent et les personnes qui viennent. Donc ça demande un travail qu'on fait particulièrement au beau jour quand on est plus sur l'extérieur du domaine. C'est quand même 13 hectares avec des sentiers de randonnée, donc on a aussi des gens qui viennent parfois de plus loin que les environs. Mais il y a aussi de plus en plus des partenariats qui se créent, notamment avec la médiathèque de Torigné-Fouillard qui nous accueille en nomadisme. Et puis, depuis cette année, il y a le projet de Benoît Gasnier à l'Orée du Temps, qui est une cantine-bar associatif avec aussi un potager qui permet, chaque dernier week-end de chaque mois, d'ouvrir les portes du domaine. Donc le chapiteau que vous avez vu qui s'est transformé en cuisine et restaurant permet d'accueillir du coup les personnes qui passent, mais aussi des personnes qui voudraient venir spécifiquement pour voir des artistes qui présenteraient leurs travaux qui sont là en résidence. Et aussi d'avoir des ateliers de partage de savoir-faire. Et donc chaque personne peut proposer un atelier et partager ses compétences. On a eu donc il y a eu le potager qui a été l'occasion d'un de ces ateliers. Il y a eu un atelier pickles. Il y a eu du coup le baume de Camille qui est venu nous parler de la peau et de comment préserver notre peau, surtout dans ces temps où les gels hydroalcooliques sont à la mode. Voilà, donc c'est une façon de commencer à mettre en place des rendez-vous avec les gens du coin et avec particulièrement les gens des environs qui viennent souvent sur le domaine et qui ont besoin aussi de commencer à rentrer dans l'association.
Donc vous venez de nous parler de À l'orée du temps. Sur le site web, c'est défini comme le temps de boire un verre autour du café associatif, de grignoter la cueillette du jour à la cantine associative et de se rencontrer autour de l'atelier de partage de savoir-faire. Il s'agit aussi donc un peu d'un mode de vie que vous proposez à travers l'association. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette dimension aussi ?
Je pense que dans la lignée de ce que Dominique a présenté sur l'idée de prendre le temps d'expérimenter, que ce soit d'un point de vue artistique pour les équipes qui viennent ici, il y a aussi cette réflexion sur le temps, prendre le temps de faire les choses. Et c'est ce que Benoît a vraiment voulu aussi essayer de mettre en place, s'adapter au rythme de la nature, tout simplement, avec le potager. Et puis le fait qu'on est dans un vieux manoir qui n'est pas chauffé l'hiver. Et donc, habituellement, l'association est en nomadisme de décembre à début mars, à peu près. Et donc, on s'inscrit dans cette saisonnalité-là aussi. Et ça prend du temps. C'est l'immédiateté n'est pas tout à fait de rigueur ici.
Et j'ajouterais que cette notion du temps dont parle Maëla, elle se conjugue aussi avec notre volonté de susciter le côtoiement entre des gens, des citoyens d'horizons très différents. Je veux dire d'horizons sociaux, d'horizons professionnels, d'horizons géographiques différents. Mais ça, c'est la deuxième idée forte quand on a créé Au bout du plongeoir, qui se traduit encore aujourd'hui, et notamment dans le cadre du projet À l'orée du temps, mais pas seulement. C'est cette idée que ce n'est pas parce qu'on n'est pas du milieu de l'art, ou qu'on est peu habitué à fréquenter les salles de spectacle, que pour autant on n'est pas en capacité d'être curieux et d'être en capacité d'échanger avec des artistes, de discuter avec eux de leur réalité et de travail et de leur réalité de création. En tout cas, nous, ça, c'est ce qu'on perçoit et ce qu'on vit tous les jours. On a fait le choix de venir à Tizet parce qu'on nous a proposé de venir ici. L'association, à l'origine, avait son siège à Rennes et très rapidement, la commune de Torigné-Fouillard, mais soutenue à l'origine par d'autres collectivités publiques et, j'oserais dire aujourd'hui, principalement par la métropole de Rennes, nous a proposé de venir s'installer ici. Et si on a fait ce choix-là, c'est parce que effectivement, le domaine de Tizé, la ferme de Tizé, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas un lieu qui historiquement est un lieu de spectacle. En fait, c'était un lieu comme beaucoup d'autres manoirs qui ont été construits entre le 14e et le 17e. C'est devenu très rapidement et dans le même temps un lieu une ferme, quoi, un lieu d'exploitation agricole. Mmh. Donc c'était un lieu de production agricole. Nous, on en fait un lieu de production d'idées et un lieu de production artistique, mais c'était effectivement pas du tout le cas à l'origine. Quand nous sommes arrivés ici, tout était immuré pour éviter les squats. Donc on est parti d'un lieu qui n'était absolument pas repéré comme par les gens comme étant un lieu d'art quoi, et de culture. Ça, paradoxalement, nous, ça nous a fait une force dans le sens où il n'y avait pas trop d'a priori des gens sur ce qu'on faisait ou sur ce qui se faisait ici. Et je parle pour les plus timides ou les plus frileux d'entre eux. C'était pas marqué théâtre ou centre culturel sur le fronton, et donc du coup les gens au quotidien viennent assez facilement nous rencontrer, même si c'est pas non plus comme le disait Maïla fort justement, c'est pas non plus forcément le plus aisé, parce qu'à l'inverse, quand il y a rien d'écrit sur le fronton, ben, les gens s'interrogent sur ce qui s'y passe réellement, mais en réalité il y a quand même sur l'année c'est entre 20 et 30 000 personnes qui passent ici quoi, en fait. Alors c'est pour certains qui habitent dans le centre de Rennes et qui se disent « c'est très très loin », petit clin d'œil à ma voisine de gauche. En fait, c'est tout près. C'est tout près, Tizé. En bus, c'est 15 minutes de Rennes ou d'Assigné, selon qu'on vient. La ligne 64, c'est entre... Au bout du plongeoir, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est très bien situé entre Rennes et Assigné. C'est sur la commune de Thorigné-Fouillard, mais c'est dans ses sons. Donc vous voyez, on est vraiment au cœur de la métropole rennaise. Il y a deux lignes de bus qui y passent. À vélo, c'est la 31 et la 64 en bus. Le vélo, et là c'est le petit coup de com', mais en fait qui est utile, parce que si je dis ça, si je prends ces exemples-là, c'est parce qu'il y a des gens qui... Beaucoup de gens ne nous connaissent pas, évidemment. On est petit et peu connu, mais il y a de plus en plus de gens quand même qui viennent nous fréquenter. Donc ça, c'est une petite blague. Mais en tout cas, on est tout près de Rennes à vélo. C'est 20 minutes depuis République. Mmh. Et en voiture, c'est encore plus proche. Oui.
Et en plus, vous mettez en place beaucoup de choses de médiation pour attirer les gens. Et vous avez créé des jeux aussi sur le site web. Du coup, quel est le but de ces jeux ? Et est-ce aussi un autre outil de médiation ?
Alors, dans les différents outils de médiation, oui. C'est quelque chose qui est... alors, j'aimerais déjà notamment parler des échappées patrimoniales de Laïla Morvan, qui ont été mises en place depuis l'année dernière. Elle était stagiaire ici, et ça permet aussi de faire écho à ce que tu disais tout à l'heure. C'est une autre approche du lieu qui est le patrimoine. Et donc, Leïla a mis en place ces trois échappées qui permettent de visiter le domaine et de le rencontrer d'une autre façon que l'approche purement artistique ou la balade. C'était de très beaux moments qui ont eu beaucoup de succès. Ensuite, les jeux, je pense que tu fais référence au jeu des 32 questions.
Oui, notamment.
C'est ça, donc ça c'est très ancien, aussi vieux que l'association.
Et très actuel.
Et très actuel. Et donc Dominique pourra peut-être parler un peu plus de l'historique de ce jeu, mais c'est effectivement assez utilisé de façon générale pour rencontrer les gens en fait.
Ouais, c'est Gilles Deleuze qui disait que le plus difficile dans une question... c'est pas d'y répondre, mais c'est d'en sortir. Ouais. Et en ce qui nous concerne, au bout du plongeoir, quand on a créé l'association, effectivement, la première création collective qu'on a fait, ça a été de créer ce jeu de 32 cartes, parce qu'on est très joueurs. Donc, c'est pas un jeu de belote, je le précise, mais c'est un jeu de 32 questions. Et l'idée de ce jeu étant de pouvoir, à plusieurs, et on a des exemples innombrables de gens qui ont joué à ce jeu... j'allais dire même dans un bus ou jouer en famille évidemment, sur le lieu de travail bien sûr, et nous on l'utilise beaucoup ici quand on accueille ou quand on démarre des réunions, et où chaque participant choisit une question mais n'y répond pas, parce que ça c'est pas très drôle d'y répondre. Mais la personne nous dit simplement pourquoi elle a choisi cette question là et là pour le coup ça devient beaucoup plus intéressant et ça donne aussi souvent l'humeur du jour, la tonalité d'un instant où la personne dit, ben voilà, moi, là, maintenant, je choisis cette question-là parce que... C'est une belle façon de se rencontrer et on s'est rendu compte, nous, dans des rendez-vous même, on pourrait dire, très importants, avec des institutions diverses ou des responsables politiques, pour l'avoir joué aussi avec eux, que c'était vraiment une belle façon de rentrer en dialogue, de faciliter un échange et de tenir compte de l'humeur du jour ou d'un instant. Voilà. C'est un exemple d'outil, on pourrait dire, de médiation qui existe, et comme celui de Leïla dont tu parlais, ou des visites reposantes du site que l'on fait aussi. En fait, il y a beaucoup de gens qui viennent ici aussi en équipe ou en groupe. On accueille beaucoup de séminaires aussi. Là, je vois, on a beaucoup accueilli des centres sociaux de Rennes, par exemple, en séminaire, mais aussi on a des liens privilégiés avec l'hôpital psychiatrique où des gens viennent aussi, soignants, patients, viennent jusqu'à nous. Des entreprises qui viennent aussi faire leurs séminaires. Donc il y a beaucoup de groupes constitués qui viennent aussi séjourner le temps d'un après-midi ou d'une journée ici pour prendre un temps de repos et de réflexion. Donc ça vient vraiment compléter l'atmosphère qui règne autour de la présence des artistes. En fait, c'est pas du tout, c'est tout sauf contradictoire, au contraire. Toutes ces personnes, seules ou en groupe, artistes ou autres professionnels, viennent vraiment ici pour profiter effectivement d'un cadre bucolique assez exceptionnel aux portes de Rennes, sur les bords de la Vilaine, mais pour prendre le temps de la réflexion. Comme on le dit souvent, se reposer, ce n'est pas rien faire, c'est faire quelque chose de nécessaire, sinon d'indispensable, qui permet d'agir pleinement quand il convient d'agir. Donc c'est une invitation à l'anticipation, à la prise de décision et surtout à la réflexion.
Est-ce qu'on s'autorise une petite pause musicale tout de suite avec Vincent Delerme et son morceau « Grand plongeoir » ?
Encore un été, est-ce qu'on peut danser ? Est-ce qu'on peut faire ça encore une fois ? Est-ce que ça s'arrête ? Page 427. Est-ce qu'on atteindra la page 33? On verra à la tombée du jour. On verra à la nuit, mon amour. On verra plus tard. On verra en haut du grand plongeoir. On verra tout au fond du couloir. On verra ce soir. Les pieds nus, le sol. Une plage espagnole. Est-ce qu'on dormira à Mérida? Est-ce qu'on pourra voir la clinique un soir? Est-ce que ça tiendra jusqu'au lilas? On verra à la tombée du jour. On verra à la nuit, mon amour. On verra plus tard. On verra en haut du grand plongeoir. On verra tout au fond du couloir. On verra ce soir. Encore un été. Est-ce qu'on peut danser? Est-ce qu'on peut faire ça encore une fois?
Vous avez de la musique là ?
Syllabe,
la radio sauvage.
C'était Grand plongeoir de Vincent Delerme. Vous êtes toujours sur Syllabe d'Antonin de Brecht.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus, un peu déjà, parce qu'on n'en a pas encore parlé, de SEA, site d'expérimentation architecturale, qui a l'air d'être un énorme pilier de la structure.
C'est un des piliers. Il est énorme, peut-être parce qu'il touche à l'architecture, donc tout de suite on imagine des grandes constructions, etc. C'est effectivement un des piliers avec la création artistique dont on parlait tout à l'heure. Il a ce site particulier qu'effectivement il n'existait pas à l'origine de l'association, et pour cause, comme je l'ai dit, puisqu'on n'était pas ici à teaser, mais que c'est apparu ensuite comme une évidence et une nécessité que d'améliorer l'outil de travail qui est à la fois le domaine de Tizé, à savoir son manoir, et les hectares de terre autour. Quoi. Parce que concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas Tizé, il faut simplement dire que c'est un ensemble de bâtiments, à peu près 1500 m² de surface plancher, donc sur l'ancienne étable, l'ancien logis, l'ancienne grange, etc. Et puis une dizaine d'hectares de prairies, de bois autour. Quoi, en fait. Et donc, s'agissant des prairies et du bois, ça c'est facile à imaginer. Concernant le bâtiment, il faut savoir que quand on est arrivé ici, donc je l'ai dit, tout était muré, il y avait encore du grain et du foin. Là où nous sommes, là, actuellement, en studio, on est dans l'ancienne étable. Et on a tout ce que vous voyez autour de vous a été refait par l'association. Enfin, pas les murs, hein, j'exagère. Mais en tout cas, le reste, l'aménagement, tout a été refait par l'association. Donc, il y a eu vraiment beaucoup d'heures, de temps passé. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait donner une dimension singulière à ces aménagements et à cette évolution du site. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas inviter des architectes, des paysagistes, des urbanistes, comme on peut le faire, des artistes, en fait, musiciens, gens de théâtre, vidéastes, etc. Et du coup, on a mis un petit peu de temps à élaborer ça, mais... Au début des années 2010, enfin en 2014 pour être précis, on a imaginé créer un site expérimental d'architecture, c'est-à-dire permettre et inviter des architectes qui viendraient eux aussi séjourner ici et poser un geste à échelle 1, quoi. C'est-à-dire pas imaginer seulement des choses, faire des croquis, des maquettes, etc., mais réellement faire évoluer les intérieurs, voire les extérieurs du bâtiment. Et donc, c'est ce qui se fait progressivement. Il y a eu une très belle expérimentation qui a été menée par Charles Motte, donc un jeune architecte rennais, qui a refait tout le volume de la partie la plus ancienne du manoir, qui est le manoir du 14e. C'est pas la plus spectaculaire pour les gens qui viennent sur le site, parce qu'ils ont souvent en tête le manoir du 16e, Renaissance, avec sa façade en tuffeau. Mais ce n'est pas la plus ancienne. La plus ancienne, elle est dans le prolongement de l'étable. Et donc, Charles Motte a mené une expérimentation sur la lumière et une expérimentation sur les flux de matériaux et de personnes. Et il a été en binôme avec un charpentier. Et ils ont donc mené cette expérimentation qui, aujourd'hui, offre un espace magnifique, à la fois un espace de travail comme les autres, un bureau suspendu qui est, on pourrait dire, comme une ventouse sous la toiture, un jeu de lumière naturelle par le truchement de verres morts, c'est-à-dire des ardoises qui ont été remplacées par des verres spéciaux, et donc ça donne une clarté et vraiment une magnifique réalisation dans ce manoir du 14e. Et puis là, on est en train de travailler sur une nouvelle expérimentation qui va se traduire par, c'est le projet en tout cas, par la construction d'hébergements pour artistes. Ce qui est un manque réel. Maëla, fort justement, tout à l'heure, parlait de cette cantine associative, de ce bar associatif, et donc de cette réalité quotidienne où les artistes peuvent se faire à manger ou peuvent manger à la cantine. Mais par contre, ils ne peuvent pas dormir, pour l'instant, au domaine de Tizé. Et donc, quand ils viennent ici, au bout du plongeoir, soit ils sont logés chez l'habitant ou dans des appartements à Rennes ou dans des gîtes ruraux. Et là, on aura d'ici 2 ans, si tout va bien, un hébergement possible sur le site de Tizé. Et là, c'est une nouvelle expérimentation confiée à Cécile Gaudouin, architecte, qui s'interroge particulièrement sur les enjeux de réemploi dans le domaine de l'architecture. Et donc, c'est elle qui sera la maître d'œuvre de cette expérimentation. Donc voilà, je ne vais pas passer en revue. Il y a d'autres expérimentations plus, on va dire, plus modestes, mais qui contribuent, elles aussi, à faire de Tizé un véritable lieu de vie. Parce que réellement, pendant une vingtaine d'années, il n'y avait plus de vie ici à Tizé. Et donc, grâce au bout du plongeoir... Et par une réflexion autour des enjeux, de nouvelles manières de faire en architecture, eh bien, on redonne aussi vie à ce domaine patrimonial en y faisant rentrer des enjeux contemporains de création.
Et bah, du coup, comme on l'a bien compris et que vous venez de nous l'expliquer, l'architecture fait partie des nombreux domaines dont vous permettez la création. Et vous accueillez aussi en résidence des spectacles comme Bivouac par Julie Cellier de la compagnie À l'envers, qui consiste en une nuit de bivouac avec des inconnus. D'un point de vue plus théâtral, quelle place voulez-vous donner à l'espace dans la création dramatique ?
À l'espace ?
Oui, sachant que vous qualifiez aussi pas mal le domaine de Tizi d'espace public, il me semble. Donc, espace public aussi.
Ouais. Ça, c'est effectivement une grande question que celle de l'espace. Alors, espace public pour Tizi, enfin, on le qualifie, donc on n'a pas tout à fait le choix, puisque la réalité, c'est que Tizi est un domaine public.
D'accord.
Et donc, en ce sens, bien évidemment, il ne nous appartient pas, il n'appartient pas à l'association. Nous en avons la gestion. La gestion de mettre en œuvre une activité et un projet particulier qui est celui de la plateforme artistique telle que je vous en ai parlé. Donc ce n'est pas un projet qui soit uniquement théâtral. En fait, c'est aussi une des particularités, c'est une façon de vous répondre, mais celle-ci est super importante, c'est-à-dire que les espaces de création en France... Et depuis bien longtemps, depuis de nombreuses décennies, sont des espaces qui sont très cloisonnés. D'ailleurs, à l'instar de l'organisation encore actuelle de notre État, les services déconcentrés de l'État en France en matière culturelle sont encore très, très, très compartimentés, très cloisonnés. Vous avez un département musique, un département théâtre, un département danse. Bon, ça, c'est pour ce qui concerne l'administration de l'État, mais la réalité des lieux artistiques et culturels en France sont, bon an, mal an, un peu la même chose. C'est-à-dire que vous avez des salles de concert, des théâtres, des salles de cinéma, des librairies ou bibliothèques. Et donc, les lieux ne sont pas si nombreux que cela, qu'ils soient des lieux vraiment de croisement, de traversée, des espaces qui pourraient être des espaces dont la vocation est celle d'offrir à des artistes de théâtre, mais aussi, pourquoi pas, à des artistes de cinéma ou de musique, la possibilité de se croiser et surtout de permettre à des publics de venir dans un même lieu, dans un même espace, un jour pour voir une proposition théâtrale et 3 jours après pour rencontrer un écrivain. Voilà, c'était un des projets... et une des utopies de Malraux quand il a construit ses cathédrales du XXe siècle. Mais bon, on sourit tous autour de cette table parce qu'on sait très bien que ce ne fut pas vraiment le cas. Mais en tout cas, la notion d'espace, elle peut s'appréhender d'un point de vue esthétique. Et là, pour le coup, il faudrait faire peut-être une autre émission pour parler de l'esthétique théâtrale et de cette notion d'espace. Je ne suis pas contre.
Okay.
Merci à vous de m'inviter pour ça.
Okay.
Mais dans le cadre d'Au bout du plongeoir et par rapport, pour le coup, à l'humeur là, de ce temps passé ensemble, il me semblait important de dire que on a vraiment créé aussi Au bout du plongeoir pour essayer de décloisonner un peu les champs de pensée et d'action et les champs de création. Ce qui ne veut pas dire qu'on privilégie des créations ici qui réuniraient sur un même plateau des vidéastes, des musiciens, des gens de théâtre. C'est pas ça. C'est simplement, par contre, dans un même espace comme celui de Tizé, et c'est notre quotidien. Sauf pendant l'hiver, bien sûr, mais c'est d'avoir le même jour des espaces différents qui sont investis par des artistes aux esthétiques différentes et qui peuvent se rencontrer, d'ailleurs, qui se rencontrent, qui se côtoient. Ça suscite même parfois, à l'avenir et dans le futur, des projets ensemble. Mais en tout cas, il est vrai qu'ici, à Tizi, vous pouvez rencontrer le même jour des plasticiens, des musiciens et des comédiens qui sont sur des projets différents, mais qui cohabitent à Tizi en même temps. Donc cette notion d'espace, pour nous, on l'appréhende aussi de cette manière-là, en fait, en faisant tomber des murs, en essayant de faire tomber des barrières, quoi, en fait.
Est-ce que vous pouvez nous parler justement des beaux jours qui seraient plutôt les portes ouvertes de la création pour Au bout du plongeoir ?
Alors, les bons jours, c'est un événement qui a lieu le dernier week-end de septembre. qui cette année ont été transformés et reportés. C'est un moment où effectivement ce sont des portes grandes ouvertes, où les artistes qui sont venus travailler à l'année à Tizé reviennent pour présenter leur étape de travail. C'est pas je répète ce que disait Dominique, mais les artistes viennent ici généralement au début de leur création. Donc quand ils reviennent pour les bonjours, ils présentent là où ils en sont dans l'avancée de leurs travaux. Et donc tous les espaces sont mobilisés. C'est un temps de rencontre, un temps de présentation sur 3 jours, du vendredi soir au dimanche, et qui permet de présenter l'association. Il y a la cantine associative et le bar associatif aussi qui sont ouverts. Et ces espèces de rencontres entre les artistes et le public qui est invité à venir découvrir le lieu et l'association.
Justement, de la même manière, l'un des membres fondateurs, François Possémé, a créé Trace, une série de films courts qui interroge le processus de création. Alors, pourquoi partager ces étapes aussi par le média de la vidéo, alors que vous le faites beaucoup par le média du présentiel ?
C'est beau, ça.
Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une présentation en présentiel. Tout au long de l'année, il y a ces moments-là, et justement, c'est aussi en réflexion depuis l'orée du temps et depuis quelque temps sur l'ouverture au public. Le projet de François, c'est un projet en lui-même, déjà, trace un projet artistique en lui-même qui va aussi au-delà des films. Il y a la vitrine qui est à l'entrée de l'étable qui présente les écrans, mais qui est aussi une installation. Et François, il se pose cette question-là du processus de création et il fait les traces d'au bout du plongeoir. Donc depuis de nombreuses années maintenant, il filme la majorité des artistes qui viennent ici. Il monte ces films-là pour présenter l'activité de l'association et les différentes personnes qui la traversent. Il y a un travail qui se fait avec les archives. Il me semble aussi sur ce que fait François. Je pense que c'est au-delà d'un outil de présentation, c'est une expérimentation artistique trace, plus que vraiment un outil à disposition de l'association.
Eh bien, on vous remercie pour cet entretien.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Mais avant de se quitter, nous allons inaugurer une nouvelle rubrique.
Que de nouveautés en ces temps de confinement.
Eh oui, on innove.
Alors, de quel coup de cœur vas-tu nous parler aujourd'hui, Martin ?
Je vais vous parler d'une pièce d'un auteur norvégien, Fredrik Bratberg, qui s'intitule « Sur la côte sud » et qui vient tout juste d'être édité chez L'Arche. Fredrik Bratberg a reçu des distinctions prestigieuses dans son pays natal et on parle de lui comme de l'héritier d'Ibsen. Dans cette pièce, on suit les vacances d'une famille qui paraît au premier abord tout à fait normale. Elle n'est normale qu'en apparence, puisque leurs relations vont se crisper autour du personnage de Frida, dont on ne sait pas si elle est la fille, la belle-fille d'un des personnages. Et dans l'écriture, il y a la répétition des scènes, et l'effet miroir de celle-ci entraîne une sorte de vertige pour le lecteur, donc je vous conseille fortement cette lecture. Et voici maintenant le temps des remerciements pour cette émission exceptionnelle au domaine de Tizé, au sein de l'association Au bout du plongeoir. Merci à vous pour toutes les réponses à nos questions. Merci de nous avoir reçus chez vous. Et merci à Patrick pour la technique. Et merci à Léa pour la préparation de cette émission. C'est ainsi que s'achève l'émission.
Enfin Brecht, l'émission est donc terminée. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.
Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine !
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane, et...
Tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllabes.